Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors la mondialisation, on le voit bien, fait des gagnants en Asie, mais aussi des perdants, et en particulier dans nos pays anciennement industrialisés. L'élection de Trump signifie-t-elle que les seconds sont devenus plus nombreux que les premiers?
Thomas Friedman, l'auteur du best-seller La Terre est plate, le meilleur plaidoyer à 7 heures en faveur de la mondialisation, s'est taillé un franc succès l'été dernier en forgeant un nouveau slogan. Dans une tribune au New York Times, il opposait en effet les gens du mur, wall people, aux gens du web, web people. Les premiers veulent enrayer les changements qu'ils jugent menaçants. Ils parlent au nom du foyer, des racines, ils veulent vivre et travailler au pays et en compagnie de gens qui leur ressemblent. Les gens du web comprennent que dans une période de changement rapide, les systèmes ouverts sont plus flexibles, plus résilients et plus dynamiques. Le Britannique Mark Leonard, directeur du think tank European Council on Foreign Relations, confirmait récemment cette intuition à l'aide de statistiques. Les wall people, ce sont les travailleurs âgés ou retraités, les web people, les jeunes diplômés. Trump a obtenu 53% des suffrages chez les plus de 65 ans, mais seulement 37% chez les moins de 30 ans. La rhétorique pessimiste attire les seniors, conclut Leonard, tandis que les juniors sont plus optimistes quant à leur avenir. Mais les uns et les autres partagent l'idée que nos vieilles démocraties représentatives s'écroule. Or, tandis que le peuple du mur espère faire revenir le temps d'avant, retrouver un environnement plus familier, le peuple du web, lui, souhaite une politique remise au niveau des technologies d'aujourd'hui. Notre économie est caractérisée par la multiplication des choix, la personnalisation de l'offre, la participation du client à l'élaboration du produit. Notre vie politique, elle, est en retard. Elle se structure autour de partis retranchés, quoique déclinants. Conclusion, la politique doit s'ubériser, comme l'ont fait les taxis et les hôtels, se désintermédier. Le grand économiste turc Dani Rodrik, qui enseigne à Harvard, écrit sur le site Project Syndicate « La révolte populaire qui semble s'être déclenchée prend des aspects divers qui parfois se recoupent. Réaffirmation des identités régionales ou nationales, exigence d'un plus grand contrôle démocratique, rejet des partis politiques centristes et méfiance envers les élites et les experts. » Fin de citation. Et Rodrik d'embrayer. Avec d'autres économistes, j'avais mis en garde, dit-il, contre les risques qu'ont comportaient les évolutions récentes de la globalisation, le mot que les autres pays utilisent de préférence à notre mondialisation. Pour cet économiste, cette globalisation a été poussée un cran trop loin. Aujourd'hui, au-delà des limites posées par les institutions qui régulent et stabilisent les marchés. Nous sommes dans une hyper-globalisation qui a follement enrichi l'Asie, mais a également désagrégé le tissu social de la plupart des pays développés en rejetant hors du système productif la plupart des travailleurs insuffisamment qualifiés ou recyclés. Et pour cet auteur, je le cite encore, la plus grande surprise est le caractère droitier de la réaction politique. Si la gauche ne bénéficie pas de ce qui est pourtant une crise du capitalisme, poursuit Rodrik, c'est qu'elle ne peut pas utiliser le thème de l'immigration. Alors que cette immigration fait l'objet d'un rejet de la part des catégories sociales qui ont le plus souffert de la mondialisation. Pour eux, l'insécurité culturelle se surajoute à l'insécurité sociale.
Et les Américains ont été les héros de la mondialisation à présent, même eux s'en détournent. Est-ce que ce n'est pas la preuve d'une démondialisation qui serait en marche déjà?
Ce qui frappe la plupart des observateurs, c'est que la remise en cause de la mondialisation l'est emportée dans le pays même qui en avait donné le branle. Les États-Unis sont les promoteurs traditionnels de la libre circulation des navires, des capitaux et des marchandises. Comment ce pays en est-il arrivé à élire un homme qui dénonce aussitôt élu tous les traités commerciaux négociés par son prédécesseur? Contrairement à ce qu'on croit souvent en France, la situation est très différente dans les îles britanniques. Les Anglais ne sont pas hostiles à la mondialisation, comme le démontre un tout récent sondage Ipsos. Une faible minorité des Français, seulement 26% d'entre nous, considèrent l'ouverture de leur économie aux entreprises étrangères et au commerce international comme une opportunité. Au contraire, une majorité de Britanniques partagent cette opinion, 54%. Le Brexit ne traduit pas un désir protectionniste, comme on l'affirme souvent chez nous, mais au contraire, l'aspiration au grand large asiatique, en se débarrassant au passage d'une Union européenne jugée trop réglementaire. Laura Tyson et Susan Lund, deux économistes importantes, signent toujours dans Project Syndicate un article expliquant que ce qui est en train de se produire du côté de la mondialisation, c'est que le rythme d'expansion du commerce mondial a ralenti. Oui, entre 1990 et 2007, il progressait deux fois plus vite que le PIB mondial. Aujourd'hui, il continue certes à progresser, mais moins vite que la croissance mondiale. Mais cela ne veut nullement dire que la mondialisation recule, encore moins qu'elle serait derrière nous, selon ces deux économistes. C'est juste qu'elle est en train de basculer de l'échange des biens à l'échange de données numériques. Car dans ce domaine, les échanges transfrontaliers explosent et on n'a pas encore tout vu. Grâce aux plateformes numériques telles que Facebook ou Alibaba, les plus petites entreprises ont soudain accès au marché mondial, elles vont se transformer en micro-multinationales, trouvant des fournisseurs et des clients dans le monde entier. Oui, la mondialisation a encore de beaux jours devant elle. Elle change de nature et les lignes Maginot ou les murs Trump n'y pourront pas grand-chose.